Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Les nouveaux chemins qui préparent le bac avec vous cette semaine et en compagnie de Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Antoine Ravon et Tristan Grenassia, avec à la réalisation de dissertations sonores Nicolas Berger, à la lecture de textes à retenir pour le jour J, Jean-Louis Jacopin et Olivier Martineau, et à la prise de son Gilles Manet et Jean-Pierre Pernel. À 10h51, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous aidera elle aussi à préparer le bac en donnant la parole à des profs de philo qui évoqueront pour vous leurs souvenirs de terminale. L'épreuve est dans quelques semaines à peine, et vous êtes toujours incapable de citer l'auteur du discours de la méthode? Ou bien en peine de définir ce qu'est une problématique? Ou bien n'en pouvant plus de regarder votre tête blonde pâlir à l'évocation du jour J, vous décidez de lui venir enfin en aide? Ou bien encore, vous aimez raconter à vos petits-enfants la note que vous avez eue en philo, en vous demandant si vous feriez mieux aujourd'hui? Enfants, parents et grands-parents, et tous les autres, pas de panique, cette semaine est pour vous. Jusqu'à jeudi, j'accueillerai à mes côtés un professeur de philosophie qui, devant ses élèves venus assister à cet exercice qui n'est pas un cours, vous proposera d'analyser, d'expliquer et de traiter en bonne et due forme un sujet de dissertation ou une explication de texte susceptible de tomber le jour du bac. Cette semaine est organisée en partenariat avec Philosophie Magazine qui vous propose comme chaque année son indispensable guide de survie au bac philo, disponible en kiosque jusqu'au jour J, en réécoutant les podcasts de cette semaine bien sûr. Demain, Sébastien Labrusse, professeur de philosophie au lycée Marie Curie de Versailles, viendra commenter pour vous un texte de Lévinas qui porte sur le visage comme fondement de la moralité. Mercredi, Éric Trelu du lycée La Sauque à La Brède se demandera s'il est souhaitable de réaliser ce qui est techniquement possible. Et jeudi, Nicolas Franck, qui enseigne la philosophie au lycée La Folie Saint-James de Neuilly, vous proposera son explication d'un texte de Descartes issu de la troisième partie des Règles pour la direction de l'esprit. Aujourd'hui, premier temps, première épreuve, premier sujet, première question, faut-il toujours chercher la certitude?
Bah moi je suis plutôt contente, parce que ça me fait penser à Descartes, les méditations métaphysiques.
Ça évoque Montaigne, qui est un sceptique et qui ne cesse de douter.
Ça m'évoque rien, juste le discours sur la vérité, mais je ne sais plus qui c'est, alors je pense que je ne prendrai pas le sujet.
Je ne saurais pas quoi dire exactement, mais... Trop certitude, ça peut être mauvais parce que ça peut amener au dogmatisme et être trop sûr de soi et donc de ne pas accepter l'idée d'une autre personne, d'autrui. Mais après, si on n'a pas de certitude, chercher la certitude, ça permet quand même d'acquérir des connaissances. Donc voilà.
Bonjour Lysia Saint-Jean.
Bonjour.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Merci.
Et bienvenue à la maison de Radio France où nous vous accueillons avec vos élèves du lycée Paul Bert, situé dans le 14e arrondissement de Paris, au premier étage de la maison de Radio France. Il fait un soleil radieux en ce jeudi 7 mai. Bonjour à vous. Vous êtes très nombreux parce qu'il y a vos élèves, mais aussi les élèves de l'émission suivante, voilà, qui vont assister à cette analyse de dissertation. Alors quand on a donné la parole à vos élèves pour savoir ce qu'ils pensaient du sujet... certains pensaient immédiatement à Descartes. Puis il y a une réaction qui disait « Mais je sais pas trop ce que je vais répondre parce que je sais ce que dit Montaigne, ce que dit Descartes, mais moi, j'en sais rien. » Est-ce que c'est un problème quand on est face à un sujet de dissertation, y compris le jour du bac, que de ne pas avoir d'avis quant à la question qui est posée?
Disons, ce qui est très important déjà, c'est que l'élève choisisse le sujet parce qu'il lui donne du sens. Et que la question s'impose à lui et qu'elle a un intérêt. Et ça, c'est primordial. Parce que si l'élève, quand il regarde les sujets, ne donne aucun sens à la question posée, il va avoir des difficultés, à mon sens, à le traiter. Donc ce qui est important, c'est déjà qu'il repère dans ce sujet un intérêt, une importance qui va lui donner envie de discuter quelque chose.
Donc il faut que le sujet lui parle un minimum, oui. pour le choisir, en fait, pour le traiter.
Oui.
Et en l'occurrence, faut-il toujours chercher la certitude si intuitivement ça ne m'évoque pas grand-chose, est-ce que je peux me raccrocher à un cours que j'ai eu ?
Oui, sauf qu'on ne demande jamais à l'élève, et c'est toute la difficulté, de restituer des connaissances. C'est pour ça que l'épreuve est finalement assez difficile, mais toujours de repenser, de se réapproprier tout le travail qui a été fait dans l'année, et notamment le travail sur les auteurs, qui n'est jamais là pour être récité ou simplement rappelé, mais réapproprié dans le cadre d'une question qui, de toute façon, est toujours nouvelle.
En l'occurrence, j'imagine que si vous avez proposé ce sujet, c'est qu'il est pour vous pertinent pour un élève en classe de terminale qui, justement, se demanderait, mais ou pourrait être effrayé en se disant « mais je n'ai pas les connaissances, je ne suis pas certain de ce que je sais, est-ce un problème ?» On pourrait le voir comme ça.
Non, parce que c'est déjà le point de départ de la réflexion philosophique, elle commence comme cela, c'est-à-dire se mettre en question ce que l'on croit savoir, ce que l'on tient pour vrai, d'être dans cette position assez commune, de s'en tenir toujours à ses certitudes, justement. Et le cours de philosophie commence par cette mise en question de nos savoirs, et l'élève commence l'année de philosophie en mettant lui-même en question ses connaissances. C'est-à-dire que recevoir un cours de philosophie, c'est pas uniquement apprendre des choses, c'est aussi être ébranlé dans ses certitudes et ses convictions.
Se réconcilier avec son absence de certitude, tout un programme sera peut-être la conclusion du devoir, mais puisque c'en est un quand même, il y a des choses qu'il faut apprendre et restituer, des connaissances, des textes d'auteurs, mais aussi une méthode. Comment est-ce que vous conseillez de procéder face à ce sujet ? Qu'est-ce qu'on commence par faire ? Définir ce qu'est la certitude ? Analyser certains termes ?
Alors le point de départ pour un élève, c'est quand même de partir de définitions très précises, des termes en jeu dans le sujet, sachant que quand on lui pose un sujet, ce sujet renvoie à des notions que l'on a travaillées dans l'année. Et notamment, ce sujet renvoie à tout le chapitre sur la vérité. Sachant qu'il faudra que l'élève ne confonde pas la vérité et la certitude. Et donc on peut commencer par ce moment, donc moment d'analyse de sujet, qui n'est pas le moment de rédaction de proprement parler de la dissertation, mais qui est décisif, parce que c'est là que l'élève va finalement identifier ce qui fera le réel objet de la discussion, puisqu'une dissertation, c'est un moment où on discute avec soi-même sur quelque chose qui, apparemment ou pas, est difficile. Et donc, on peut partir d'une définition assez précise de ce qu'est la certitude, pour ensuite interroger le sujet dans sa globalité. Donc, quand on parle de certitude, on renvoie à tout ce que l'on tient, tous les propos, toutes les connaissances que l'on tient pour vraies, sans qu'il y ait de remise en question particulière par celui qui les affirme. Et donc, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle de certitude, c'est de savoir comment on tient ce que l'on tient ou ce que l'on affirme, comment on le tient pour vrai. Quelle est l'adhésion, de quelle nature est cette adhésion par laquelle on dit ce que l'on dit sans en douter. Et donc, tout de suite, on peut se dire, mais... bien sûr, il y a des certitudes qui en sont vraiment, c'est-à-dire quand on dit qu'on parle de la certitude d'un fait, on n'en doutera pas parce qu'on s'est donné les moyens de le vérifier, on en a la preuve que c'est vrai, et donc c'est une certitude. Et on appelle certitude tout ce qui ne fera pas l'objet d'un doute. Mais en même temps, tout de suite, on se dit, bah voilà, une certitude, c'est ce dont on ne doute pas, mais en même temps... est-ce qu'on a des bonnes raisons d'avoir des certitudes ?
Et surtout, peut-être que finalement, on pourrait douter de tout. De quoi peut-on ne pas douter ? Je peux douter que le soleil se lèvera demain matin. Je peux douter que vous soyez vraiment en face de moi.
Absolument. Et trop de certitudes peut, d'un point de vue plus péjoratif, renvoyer un défaut de jugement de celui qui a trop de certitudes et qui n'a jamais fait l'effort de remettre en question ce qu'il tient pour vrai, ce qu'il affirme et ce qui, en réalité, n'est tenu pour vrai que sur le mode d'une croyance. Du coup, dès qu'on part d'une définition précise du mot qui est au centre du sujet, qui est la certitude, eh bien, on peut commencer à donner du sens au sujet en comprenant qu'il y a une ambiguïté dès le départ entre différents types de rapports à nos certitudes.
Et là, je vois que vous avez déjà fait une sorte de liste des concepts clés qui vont vous être utiles pour la dissertation. Vous avez parlé de vérité, de croyance et de doute. En fait, c'est au sein de ces quatre termes-là qu'on va se déplacer. Hein.
Oui, c'est ça. Et avec le souci toujours d'être très précis dans l'utilisation des mots que l'on emploie. Quand on parle de certitude, quand on parle de vérité ou quand on parle de doute, en quel sens en parle-t-on, sachant que le doute peut conduire à des certitudes, mais trop de certitudes, c'est ne jamais se mettre en question. Et donc, voilà, donc, c'est ce que doit tout de suite se dire l'élève, prendre en charge toutes ces ambiguïtés, et c'est ce qui fera que son travail sera intéressant.
Alors avant même de commencer, de procéder au développement, si on s'arrête encore sur le sujet, puisque finalement c'est quand même là où tout se joue, hein, dans le jour de l'épreuve, c'est dans l'analyse des termes, si on fait attention à la formulation, faut-il toujours chercher la certitude ? Je note qu'il y a écrit la certitude, alors que voilà, y a-t-il un seul type de certitude ? Peut-être y en a-t-il plusieurs ? Le toujours, hein, c'est toujours les adverbes qui sont importants, faut-il toujours chercher la certitude ? Peut-être que la réponse se situe dans le parfois ou dans le jamais, qui sait ? Et surtout, le faut-il ? Qui revient souvent dans les formulations de sujets, on peut se dire, le faut-il chercher la certitude ? Faut-il le désirer ? Est-ce possible ? Est-ce un devoir ? Est-ce un droit ? Et à partir de là, on a un faisceau de questions qu'il nous suffira de déplier pendant le développement.
Oui, et même de repérer que la question peut se poser à différents niveaux, par exemple un niveau qui serait celui du pouvoir de nos connaissances, on pourrait appeler ce niveau épistémologique, un niveau qui serait pratique, c'est-à-dire avoir des certitudes et pas une certitude. Peut-être qu'il est important de s'accommoder de nos certitudes. Et puis, un niveau peut-être plus difficile pour les élèves, mais un niveau qui renvoie au fond même, c'est-à-dire à la source de nos certitudes et qui nous met en rapport avec le monde, les choses. Qu'est-ce que l'on sait des choses, finalement ? Qu'est-ce que l'on sait du monde ? Qu'est-ce que l'on sait des autres ? Et donc, on pourrait appeler ce niveau ontologique. Et à partir de là, l'élève va, en repérant que la question peut se poser dans différents contextes de réflexion, organiser son plan, organiser ses moments de discussion.
Alors, il nous faut une problématique avant de dévoiler le plan. Quelle serait-elle ?
Alors, la problématique, renvoie, bien sûr, renvoie à la nature inhérente de nos certitudes qu'il va falloir, qui va être l'objet de notre discussion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde nos certitudes ? Quelle est la nature de l'adhésion qui nous permet d'avoir des certitudes ? Et bien entendu, de repérer, alors ça, on n'en a pas parlé, mais quand on dit « faut-il ?» toujours chercher la certitude, de repérer l'implicite du sujet. C'est-à-dire que cette question peut renvoyer à plusieurs types d'exigences. Faut-il toujours serait une exigence de type rationaliste, de type une exigence d'un esprit qui recherche la vérité à tout prix. Mais encore, quand on dit faut-il toujours chercher la certitude, on pourrait identifier derrière cette question une sorte de méfiance sous-jacente à nos certitudes ou au fait qu'on, par rapport à la pluralité de nos certitudes, au fait qu'on n'en souhaite qu'une seule. Donc il y a ça aussi, il faut que l'élève se dise, le sujet c'est pas faut-il avoir des certitudes, c'est faut-il toujours chercher la certitude. Et donc de repérer l'implicite possible de ce sujet qui l'amène à identifier l'objet de sa discussion. Alors on pourrait énoncer le problème de la façon suivante. C'est important que l'élève le formule à un moment donné dans son analyse parce que il va ensuite pouvoir l'écrire dans son introduction et être au clair sur ce qu'il va vraiment discuter pour pas être hors sujet. Hein. Alors on pourrait formuler le problème de la façon suivante. Si la certitude marque bien l'assurance d'un esprit qui ne doute pas et qui ne craint pas l'erreur, cette assurance peut très bien n'être que le fruit d'une intuition ou d'une adhésion trop crédule, alors peu objective et peu justifiable. Ce qui revient à se demander s'il faut toujours chercher la certitude, dans quelle mesure, car toute certitude est-elle bonne à rechercher ?
Donc là, vous avez noté hein, cette formule. Hein,
pour oui.
Vous, voilà, c'est une manière que les élèves ne s'effraient pas en disant « mais je pourrais jamais sortir une phrase comme ça ». C'est une manière de synthétiser les problèmes. En gros, si la certitude est indexée sur mon intuition, alors comment puis-je être sûr que déjà ce soit une garantie de vérité et puis-je finalement, à quoi me sert la certitude si mon intuition suffit ? La problématique est claire, on est obligé d'avancer un peu parce que nous n'avons pas 4 heures, nous avons 50 minutes, Ligia Saint-Jean. Alors, est-ce que vous pouvez énoncer le plan et puis ensuite on va cheminer progressivement au sein du développement?
Oui, alors dans une première partie, on pourrait montrer que toujours chercher la certitude renvoie à une exigence de rationalité et de vérité. L'exigence d'un esprit qui va établir les critères d'une connaissance certaine et objective pour montrer dans un deuxième moment qu'il y aurait peut-être derrière toute quête de certitude la position d'un sujet qui tente de se rassurer en considérant qu'il suffirait de fonder rationnellement nos certitudes pour établir la vérité. Et donc dans cette deuxième partie, marquer la distinction entre ce qu'on entend par certitude et ce qui serait la vérité. Pour, dans un troisième moment, poser la question du doute radical et de savoir si douter de tout est une position tenable, au sens où on aurait toujours à se méfier de nos certitudes parce qu'aucune vérité ne serait jamais accessible, notre esprit n'en étant pas capable, se demander si, d'un point de vue pratique, on n'aurait pas quand même à s'accommoder de nos certitudes.
Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables, et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain, de façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance et commencer tout de nouveau dès les fondements si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Maintenant que mon esprit est libre de tout soin, et que je me suis procuré un repos assuré dans une paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement et avec liberté à détruire généralement toutes mes anciennes opinions. Or, il ne sera pas nécessaire pour arriver à ce dessein de prouver qu'elles sont toutes fausses, de quoi peut-être je ne viendrai jamais à bout. Mais d'autant que la raison me persuade déjà que je ne dois pas moins soigneusement m'empêcher de donner créance aux choses qui ne sont pas entièrement certaines et indubitables qu'à celles qui nous paraissent manifestement être fausses, le moindre sujet de douter que j'y trouverai suffira pour me les faire toutes rejeter. Et pour cela, il n'est pas besoin que je les examine chacune en particulier, ce qui serait d'un travail infini. Mais parce que la ruine des fondements entraîne nécessairement avec soi tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient appuyées.
Pardon, madame. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît.
11h moins le quart.
Oh là 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 là.
Hey, Jacques, je t'avais pas vu. Ça va?
Mais les gens sont incroyables, mon vieux. Les gens, là, à l'instant, là, devant moi, il y a une espèce de type, tu sais, grand, costaud. Il croise une brave ménagère avec ses deux paniers, comme ça. Et puis il lui fait...
Vous auriez pas l'heure, s'il vous plaît? C'est hautain, sans se découvrir.
Sans même se découvrir?
La pauvre femme pose ses deux paniers à terre, il y en a un des deux qui se renverse à moitié. Et ben, le type ne se baisse même pas pour l'aider. Rien!
Allez, salut. Faut que je file. Et puis bonjour à Georgette.
Ah, monsieur Georges, c'est drôle, je pensais à vous, je me disais...
Mes hommages, que... madame Lambier, bonjour. Vous êtes au courant?
Mon Dieu, de quoi?
Mais de ce qui vient de se passer là, tout à l'heure.
Dites!
Une petite vieille revient de faire son marché pour toute sa famille. Toutes ses économies ont été consacrées. Elle marche, lentement, courbée.
L'œil triste.
Comment le savez-vous?
Je la vois.
Arrive un type, serré dans un imperméable noir. Hein? C'est un mat. Les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous pensez?
En un bon billet sur elle, il la colle contre le mur et il lui fait: vous avez l'heure?
S'il vous plaît!
Même pas!
Non!
Le type lui avait pris tout ce qu'il y avait dans son panier!
Non!
Qui? Oh! Et ce qui s'ingeste, mais le type la bouscule et file!
Pardon, madame, vous avez l'heure, s'il vous plaît?
Métèque.
Et voilà ce qui se passe lorsqu'on répète sans l'avoir vérifié, établi ou prouvé une soi-disant vérité. Eh bien, c'est la naissance d'une rumeur telle qu'elle est racontée par le comique Jean-Michel Ribes. Ligia Saint-Jean venant illustrer le texte de Descartes que j'ai lu. C'est un extrait de la première méditation dans les méditations métaphysiques de Descartes, 1641, où Descartes fait part de son projet de douter, hein, il le dit, j'étais seul, j'ai décidé, j'étais dans une paisible solitude et j'ai pu essayer de démonter, non pas une à une, mais principe par principe, tous les fondements de mes certitudes. difficile de faire l'impasse sur un auteur tel que Descartes pour un tel sujet, Ligia Saint-Jean.
Oui, parce qu'en plus, ce qui est très intéressant chez Descartes, c'est que il prend en charge les deux sens de la certitude, c'est-à-dire que il cherche toujours il a une exigence de toujours chercher la certitude, ce qui est très paradoxal, parce que quand on a des certitudes, on les cherche pas. Elles sont établies immédiatement sur le mode d'une adhésion directe, alors que chercher la certitude impliquerait justement une mise en doute, une mise en question de nos certitudes. Donc l'entreprise cartésienne, c'est une entreprise de refondation du savoir, une entreprise qui répondrait oui à la question toujours faut-il toujours chercher la certitude ? Oui. Mais à condition de ne pas s'accommoder de nos certitudes les plus communes et donc d'interroger, non pas de remettre en question la certitude elle-même, mais de considérer que ce qui est important, c'est la manière dont on adhère à nos certitudes. Et c'est là-dessus que porte le questionnement de Descartes, c'est-à-dire que Descartes cherche à savoir quels sont les critères finalement d'une connaissance certaine et objective. À quel moment on pourrait dire que ce que je le sais vraiment, et pas sur le mode d'une opinion, d'un préjugé que l'on n'aurait pas remis en question.
C'est ce que l'extrait donnait à entendre de manière humoristique. On raconte une histoire et en la racontant, on la transforme, puis à nouveau, et finalement, la personne à qui on la raconte en dernier s'imagine quelque chose de tellement terrible qu'elle en vient à quasiment tirer sur la personne qui vient lui parler parce qu'elle a peur de se faire agresser. Ce que ça signifie, c'est que l'entreprise même de Descartes, elle a quelque chose d'absolument radical. C'est que si on commence à douter de ce dont on n'est pas sûr, on doute absolument de tout.
Oui, et donc le doute chez Descartes porte sur tout ce qui est incertain. Donc prendre pour faux tout ce qui est incertain est la règle de son doute, mais un doute qui va le conduire vers l'établissement d'une certitude. D'une certitude dont il se sera donné les critères qui lui permet de savoir qu'il est vraiment dans la certitude. Alors, pour Descartes, ce qui lui permet d'établir les critères de la certitude, c'est une méthode de pensée, une méthode de jugement dont il va chercher le modèle. On en a les traces dans les méditations métaphysiques, mais surtout dans les règles pour la direction de l'esprit, à la règle 2, la règle 4, où Descartes explique une connaissance certaine, une certitude, c'est une connaissance d'ordre scientifique. C'est-à-dire une connaissance dont on ne doutera plus parce que elle est issue de deux modes principaux de pensée, l'intuition et la déduction. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance sûre, dit Descartes ? C'est une connaissance qui a rapport à des idées claires, des principes qu'on peut appeler innés, qui sont ce qu'on peut appeler aussi des semences de vérité. Et une fois qu'on a ces idées claires, donc une sorte de perception de l'esprit, on peut en déduire un certain nombre d'autres connaissances par succession, enchaînement de propositions entre elles. Ce que met à jour ici Descartes, c'est des formes originaires de la logique. C'est-à-dire que ce qui intéresse Descartes, c'est nos manières de raisonner, et c'est l'entreprise du doute, c'est de parvenir à identifier finalement nos actes cognitifs les plus originaires. Qu'est-ce qui est à l'œuvre, notamment dans l'activité mathématique ? Eh bien, c'est que nous sommes capables de savoir vraiment ce que nous connaissons, parce que nous procédons par intuition et par déduction.
Donc deux choses chez Descartes. Déjà, oui, à la réponse « faut-il toujours chercher la certitude ?» Oui, il le faut, parce que c'est la seule garantie de vérité. Quiconque veut être dans le vrai se doit d'être certain, de prouver sa certitude. Et de l'autre, deuxième chose, la certitude ne va pas sans le doute. On le voit chez Descartes, vous l'avez dit, sa méthode, c'est de douter. Pour parvenir à la certitude, il faut d'abord déconstruire, il faut d'abord douter.
Oui, parce que Descartes établit qu'il y a différents degrés de certitude, des certitudes les plus infondées aux certitudes les plus fondées. Et donc, ce qu'il met en question, c'est nos modes de créance, comme il dit. Donc, la notion de certitude renvoyant immédiatement à la notion de croyance. Il y a des certitudes qui ne sont que des croyances, comme ce que l'on tient par oui-dire, ou ce que l'on nous a transmis depuis le plus jeune âge. Une croyance qui nous permet aussi de constituer nos savoirs, mais en même temps, une croyance qu'il faut mettre en question. Et c'est ce qu'entreprend Descartes d'un point de vue théorique, en tout cas.
Est-ce que vous, dans cette première partie, vous citez uniquement Descartes ou vous faites référence à d'autres philosophes ?
Non, je me suis concentrée sur Descartes.
Ça, c'est possible,
oui,
alors.
Oui, je trouve qu'il est important de développer une référence que l'on mobilise et on apprécie dans les copies des élèves qui prennent le temps de développer une référence qu'ils ont travaillée dans l'année et qu'ils aient le souci de la préciser, cette référence. Un élève qui juxtapose beaucoup de références dans une même partie, ça n'indique pas qu'il aille au fond de son analyse. Il vaut mieux se concentrer sur une analyse précise et travailler le sujet en même temps que de multiplier des références que l'on ne développe pas et que l'on ne maîtrise pas, surtout.
Une fois que l'on pousse le raisonnement de Descartes jusqu'au bout, jusque là où on peut aller avec les connaissances qu'on a, il nous faut essayer de trouver un lien vers la deuxième partie, pas simplement dire maintenant passons à autre chose, mais peut-être pointer une des faiblesses ou un point de désaccord avec la méthode de Descartes. C'est ce qu'on appelle la transition, et figurez-vous que joie de la radio, c'est grâce à Maurice Merleau-Ponty que nous allons faire cette transition. Écoutez.
Je me rappelle avoir passé une après-midi dans le parc de Saint-Cloud à m'interroger, comme beaucoup de philosophes l'ont fait, sur la première vérité. Eh bien, je me rappelle très bien qu'il me semblait que Descartes, dans sa recherche de la première vérité, s'était donné trop de facilité. Je répugnais à reconnaître comme un fait premier l'existence de moi pour moi-même, c'est pas l'existence de ma pensée pour moi, parce que ça me paraissait un pur fait, et de ce fait, je ne voulais pas faire état. Naturellement, mon après-midi a été perdu. Je suis rentré chez moi me disant qu'il n'y avait décidément pas moyen de trouver une première vérité. Et j'ai pensé à autre chose, j'ai lu d'autres choses, et la question m'est revenue beaucoup plus tard. Mais enfin, tout à fait comme Descartes l'a dit d'ailleurs, cette recherche même, dès qu'on en prend conscience en tant que recherche, vous fournit déjà par elle-même la première vérité qu'on cherche, ne serait-ce que l'existence de... Je ne dirais pas de ma pensée, comme il le dit lui, je dirais de mon expérience, de mon être total.
Ils auraient pu, comme tout le monde, arriver par le train, mais ils arrivèrent par les airs, et les rumeurs allaient bon train. Qui sont-ils ces foncus-là? Que font-ils ces gens-là? Et tout ce bruit qu'on entend là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Ils doivent fabriquer une bombe pour détruire le village. On entend des bruits très suspects qui s'échappent du garage. Ça cogne sans arrêt, du soir jusqu'au matin. Et lorsque le soleil se lève, on n'entend plus rien.
Plus rien à part leur fille qui ne cesse de chanter. Quand on chante aussi fort, on a quelque chose à cacher.
D'où viennent-ils ces foncus-là? Que veulent-ils ces gens-là? Et tous ces rires qu'on entend là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair.
Et oui, c'est bien parce que ce n'est pas clair, comme le chante Alexis HK, que nous planchons aujourd'hui sur le premier sujet de notre série d'émissions consacrée au bac philo. Faut-il toujours chercher la certitude? C'est la professeure de philosophie, Ligia Saint-Jean, qui propose ce sujet et qui est en train de l'expliquer, le développer pour vous, aujourd'hui, devant ses élèves du lycée Paul Bert du 14e arrondissement de Paris.
Ils n'ont qu'à essayer, ils seront toujours étrangers.
Qui sont-ils ces foncus-là? Que font-ils ces gens-là? Et tout ce bruit qu'on entend là, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. La vie prend une tournure étrange depuis leur arrivée.
Devant vos élèves, Ligia Saint-Jean, mais aussi ceux de Sébastien Labrusse qui attend patiemment son tour après vous, il y a pratiquement une centaine d'élèves devant vous qui écoutent très sérieusement, de manière très attentionnée ici dans le premier étage de la maison de Radio France, sous un soleil cuisant, je dois dire. On est tous en train de se concentrer pour ne pas fondre, mais grâce à vous, nous allons nous occuper l'esprit et déjouer la chaleur. Alors, Maurice Merleau-Ponty, c'est assez émouvant quand même de l'entendre lui-même montrer en quel sens, eh bien, finalement, la méthode de Descartes peut avoir des limites. Ça nous amène à votre deuxième partie, avec cette prise en compte d'autre chose que soi. Finalement, Descartes fonde la certitude sur des idées claires et distinctes, sur sa propre pensée. Merleau-Ponty, lui, dit, oui, d'accord, mais que fait-on du monde? Si on doute de tout, que reste-t-il du monde qui nous entoure?
Alors, ce qui est intéressant avec la référence de Merleau-Ponty, qui critique directement le doute cartésien, cette entreprise qu'il juge assez artificielle, parce que ce qu'il voit finalement dans le doute cartésien, c'est la position d'un sujet qui tenterait toujours à se rassurer en considérant qu'il suffirait de fonder rationnellement ses certitudes pour établir la vérité. Or, notre rapport au monde, explique Merleau-Ponty, n'est jamais uniquement lié à un sujet qui serait autoconstitué, autoconstituant, et à précisément nos facultés cognitives qui nous permettraient cette mise en relation assez claire, assez évidente que l'on aurait avec le monde. Merleau-Ponty va expliquer que, en réalité, si on peut mettre en doute toute chose, ce qui sera l'issue de ce doute, c'est pas le fait que le sujet fasse retour sur lui-même, mais le fait que le sujet réalise que le monde dans lequel il est un monde finalement qui lui échappe et dont sa conscience finalement ne fera jamais le tour. Et donc l'entreprise de mise à distance du monde, pour Merleau-Ponty, est une entreprise qui révèle uniquement une chose, c'est que le lien que nous entretenons avec le monde est un lien ombilical, pré-réflexif, que l'on ne pourrait pas résumer à l'aide de nos catégories logiques.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Merleau-Ponty assigne une limite au doute, c'est-à-dire qu'on peut peut-être douter de tout, mais pas de l'existence du monde, puisque nous en faisons partie.
Oui, et il appelle ça la foi perceptive. Et donc, ce qui est intéressant dans cette référence, c'est que il y aurait dans cette entreprise de doute non pas la mise en lumière d'une certitude possible, mais à l'inverse, la révélation que tout ce que l'on pourrait tenir pour certain est toujours sur fond d'une croyance fondamentale que le monde autour de nous existe bien, mais pas sur le mode de principe réflexif, mais sur le mode d'une intuition finalement sensible, bien en deçà de nos processus réflexifs.
Et Merleau-Ponty est un auteur accessible pour des étudiants en
terminale ? Alors, c'est un auteur quand même, donc c'est un phénoménologue, c'est un auteur assez difficile. C'est vrai que la phénoménologie, on ne l'étudie pas beaucoup en terminale, mais c'est un auteur qui est quand même passionnant à étudier avec les élèves. Et nous, cette année, par exemple, on a travaillé avec les élèves le petit ouvrage « L'œil et l'esprit » qui permet de mettre en rapport l'art et la science. Et les élèves y trouvent quand même un grand intérêt, à mon sens.
Donc Merleau-Ponty sera l'auteur clé de cette deuxième partie dans laquelle vous allez montrer finalement les limites d'un doute, disons, radical comme le fait Descartes, c'est ça ?
Oui, mais surtout, il nous permet de montrer qu'on ne peut pas toujours chercher la certitude, ou en tout cas que si on la cherche, elle n'est jamais une vérité. C'est ça qui est intéressant.
Vous prononcez l'idée de vérité.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est postulé chez Descartes, et finalement, c'est que si on parvient à établir la certitude, c'est sur fond d'un postulat qu'il y aurait un accord entre nos modes de connaissance et puis le monde lui-même.
Est-ce qu'on peut essayer de prendre un exemple pour voir de quoi il s'agit vraiment ? Parce que là, ce sont des arguments qu'un philosophe oppose à un autre philosophe. Un élève en terminale, et même pas que d'ailleurs, même quelqu'un qui n'est plus en terminale depuis longtemps, pourrait trouver ça abstrait ou trop théorique. De quoi parle-t-on vraiment ? Quelle est l'objection de Merleau-Ponty ? Dire « nous faisons partie du monde, donc nous ne pouvons pas douter de tout ». Est-ce que c'est quelque chose dont on peut faire l'expérience ? Est-ce que vous auriez un exemple pour essayer d'expliquer ce dont on parle ?
Disons qu'on pourrait, pour que l'élève puisse mieux saisir de quoi il s'agit, le faire réfléchir sur la manière dont on appréhende les choses, nos modes de connaissance, et notamment tout le travail qu'on fait autour de l'art, peut être un moyen de faire comprendre ce que dit Merleau-Ponty, c'est-à-dire que nos modes perceptifs sont toujours traversés par des habitudes de pensée. On apprend à percevoir telle ou telle chose, et à partir justement de mots, hein, les mots nous y aident, mais aussi nos regards sont éduqués. De reconsidérer notre regard peut se faire par le biais de l'art, justement. Et c'est d'apprendre à voir les choses autrement, des perspectives différentes, et en deçà de nos catégories logiques, de nos modes habituels de regard.
Parce qu'il y aurait un autre auteur que l'on pourrait évoquer dans cette seconde partie, hein, pour montrer que le doute ne conduit pas forcément à une vérité. C'est David Hume qu'on étudie parfois en terminale, notamment dans l'enquête sur l'entendement humain. Il présente l'idée selon laquelle il n'y a pas de nécessité, c'est-à-dire que la vérité n'est jamais qu'une certitude, voire une croyance, dit-il, dont on ne peut pas prouver la teneur en vérité. Il dit ceci, hein, nous supposons que lorsqu'une espèce particulière d'événement a toujours été, dans tous les cas, jointe à une autre, par exemple, tous les matins, je vois que le soleil se lève. Donc il y a une connexion entre le matin et le soleil, il se lève. Okay ? Eh bien, nous ne faisons plus dorénavant aucun scrupule de prédire l'un d'après l'apparition de l'autre et d'employer le raisonnement qui nous peut seul assurer d'une chose quelconque. Nous appelons alors l'un des objets cause, l'autre effet. Et nous supposons qu'il y a une connexion entre eux, quelque force dans l'un, par où il produit infailliblement l'autre et opère avec la plus grande certitude et la plus forte nécessité. Et Hume poursuit, il est assez important, cette connexion que nous sentons dans l'esprit, cette transition habituelle de l'imagination de l'un des objets à son concomitant ordinaire, tel est donc le sentiment ou l'impression d'où nous formons l'idée de force ou de connexion nécessaire. Il n'y a rien de plus, en l'occurrence, ce que Hume dit, c'est que finalement, nous ne serons jamais assurés que le soleil va se lever tous les jours. Nous n'avons que cette certitude qui ne peut pas être fondée scientifiquement, puisqu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a qu'une connexion nécessaire que nous sentons. Cette référence au fait de sentir quelque chose, c'est pas étranger à ce que vous disiez de Merleau-Ponty, c'est faire appel à autre chose qu'à la raison pour fonder la certitude. Qu'en pensez-vous, Ligia Saint-Jean ?
Oui, cette référence est extrêmement intéressante, puisque finalement, Hume montre que nos modes les plus courants de connaissance sont sur le mode de la croyance, que nous croyons qu'il y a une régularité dans l'ordre des choses. Nous croyons aussi dans une bonne entente dans nos relations humaines. Hume a aussi toute une réflexion sur le lien social qui repose sur la croyance, une sorte de croyance dans un bon ordre des choses, une bonne entente entre les hommes, et une croyance qui est naturelle, dit-il, hein, puisqu'il distingue les croyances naturelles des croyances qui seraient superstitieuses, comme la croyance en des miracles, qui, elles, vont à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Et donc, Hume montre que finalement, l'homme ne parviendra pas à établir rationnellement, universellement, apodictiquement, comme le dit Kant, cette régularité. L'homme n'a pas de connaissance scientifique de la connexion nécessaire, c'est-à-dire du principe de causalité.
C'est ce qu'on appelle le scepticisme. Et là, le terme pourrait être placé à ce moment-là, voilà, quand même dans un sujet sur la certitude. Le scepticisme, c'est donc le fait de ne pas pouvoir dépasser le doute, mettre en question toute forme de vérité objective.
Oui, absolument. Donc Hume est un sceptique qui considère qu'on s'accommode de ses croyances. C'est pas un sceptique au sens radical, c'est-à-dire que il est sceptique parce qu'il connaît les limites et les assume, les limites de la raison humaine.
Peut-être que là, il faudrait aussi définir, hein, de faire des petites mises au point conceptuelles. Vous parlez de croyance. Quelle différence entre la certitude et la croyance ?
Alors justement, donc la certitude pourrait être une croyance au sens où elle n'est pas consciente d'elle-même, elle n'est pas consciente de ses limites. Mais la certitude pourrait être une croyance éclairée, au sens où on a des certitudes, on les tient pour vraies, mais on sait que ce ne sont que des certitudes.
Et on peut, quand on croit, dire je crois en Dieu, est-ce que c'est la même chose de dire que je suis certain que Dieu existe, par exemple ? Dans la notion de croyance, il n'y a pas la notion de vérité ?
Celui qui dit que Dieu existe, il me semble qu'il n'en doute pas.
Oui, est-il pour autant certain ? C'est intéressant.
Oui.
Le terme de certitude n'implique pas forcément une forme de démonstration, justement, de vérité objective, quand la croyance s'accommode parfaitement d'une vérité subjective. Je crois en Dieu, ça veut dire, je pourrais pas vous le démontrer, mais en tout cas, pour moi, ça ne fait aucun doute.
Alors après, c'est une question difficile, parce que croire en Dieu peut se faire aussi sur différents modes. On peut croire en Dieu de manière extrêmement aveugle, comme on peut développer une foi en Dieu qui soit extrêmement éclairée et qui, comme dit Kant, se situe à la limite de la raison théorique quand il parle de croyance morale ou de croyance en des objets métaphysiques dont, de toute façon, il sait qu'il ne pourra pas en donner la preuve théorique.
Là, on est déjà passé dans la troisième partie, en réalité, un subrepticement, pour reprendre des termes chers à Kant, justement, puisque, donc, après avoir montré en quel sens... toujours rechercher la certitude, ça paraît normal quand on a une exigence de vérité. Puis après, à l'inverse, avoir montré que finalement, si on la cherche en permanence, peut-être s'éloignons-nous de la vérité en voulant la chercher à tout prix par la certitude. Troisième partie, Ligia Saint-Jean, finalement, est-ce que l'attitude inverse, ne jamais pouvoir être certain, est tenable ?
Difficilement, puisque c'est ce que explique aussi Descartes dès le début des méditations. Il y a un temps pour méditer, et il y a un temps pour agir. Le temps de la vie nous est imparti. Il faut le saisir, et donc on ne peut pas, parce qu'on doute d'un point de vue théorique ou métaphysique, empiéter sur le temps de la vie. Et il nous faut donc avoir des résolutions, prendre des résolutions, avoir des certitudes et s'y tenir, parce que sinon notre vie ne sera pas la nôtre. Et donc il est important peut-être d'apprendre à s'accommoder de certaines certitudes tout en sachant que ce ne sont que des certitudes.
Donc là, on pourrait revenir à Descartes, d'ailleurs.
Oui, parce que Descartes fait une distinction extrêmement intéressante, un texte qu'on connaît peu, qui est dans les Principes de la philosophie, à l'article 205 et 206, où Descartes distingue les certitudes morales, ce qu'il appelle les certitudes morales, qu'on peut appeler aussi des croyances, des formes de croyances, des certitudes plus que morales, qui sont des certitudes mathématiques ou métaphysiques. Et il montre que ces certitudes morales ne sont pas, de toute façon, démontrées. Elles ne relèveront pas de vérité scientifique, mais elles renvoient chez Descartes plutôt à ce qui permet de régler nos mœurs, ce qui permet finalement de nous orienter dans l'existant, tout en sachant que on ne sera jamais assuré du véritable déroulement de nos vies. Voilà, tout est incertain quant à l'avenir, mais on doit quand même se résoudre à prendre des décisions et s'en tenir notamment à certaines conventions, certaines habitudes, certaines coutumes. Hein.
Descartes prend l'exemple aussi de la médecine parfois pour montrer qu'il faut agir alors qu'on ne détient pas la science infuse ni la vérité absolue. Et un autre médecin qui le dit à sa façon, c'est le fameux Dr. House.
Doing research. People are fascinating, aren't they?
Pourquoi donnez-vous des corticoïdes à Rebecca Adler?
Parce que c'est ma patiente. C'est ce qu'on fait avec les patients, on les met sous traitement.
On ne prescrit pas de médicaments à l'aveuglette. En tout cas, plus depuis Tuskegee et Mengele.
Vous me comparez à un nazi? Sympa.
Je stoppe le traitement.
C'est ma patiente.
Et c'est mon hôpital.
Mais c'est pas moi qui l'ai rendue malade. Je fais pas d'expérience sur elle. J'ai une théorie valable sur une éventuelle pathologie.
Sans aucune preuve.
Il n'y a jamais de preuve. 5 médecins différents vous pondront 5 diagnostics différents en se basant sur les mêmes faits.
Vous n'avez aucun fait. Et comment se fait-il que vous ayez toujours raison si personne ne sait rien?
Je ne crois pas ça. Mais j'ai du mal à travailler en partant du principe que j'ai toujours tort. Et vous, pourquoi avez-vous aussi peur de faire des erreurs?
Parce que je suis médecin. Si je fais des erreurs, des gens meurent.
Oh, arrêtez pas ça.
Vous connaissez Dr. House? Je m'adresse aux élèves qui sont devant vous, Ligia Saint-Jean. Vous connaissez la série télé Dr. House? Vous avez le droit de dire oui, hein? Oui. Donc vous voyez, vous connaissez ce médecin extrêmement cynique qui râle quand les patients se plaignent et quand ses collègues invoquent des bons sentiments. En l'occurrence, je suis médecin, j'ai peur de faire une erreur. Oh non, pas ça, dit-il. Parce qu'il sait très bien, il a bien conscience que dans la vie, et surtout dans le cas de la médecine, est un exemple parfait, l'absence de certitude n'est pas toujours une bonne raison pour ne pas agir. En l'occurrence, il vaut mieux prendre un risque et soigner un patient au risque peut-être de le condamner que de ne rien faire du tout. Ça illustre assez bien la position de votre, enfin la thèse de votre troisième partie, Ligia Saint-Jean.
Oui, cette idée qu'il faudrait finalement s'en remettre par nécessité, par pragmatisme, par utilité, s'en remettre à certaines certitudes. Mais bien sûr, toute la question est de savoir, on ne va pas s'en tenir à cette position, la question est quand même de savoir quelle est la réelle valeur de ces certitudes. Est-ce que elle est le fruit d'un simple conditionnement social, ou bien est-ce que nous fions à elle parce que à travers elle, nous y engageons nos convictions, nos goûts, nos préférences, notre subjectivité. Et donc là, on peut terminer tout le travail de dissertation autour du rapport, à tout ce qu'on nous transmet, à tout dont nous sommes les héritiers et que nous passons notre temps à nous approprier. Dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre de la société, nous sommes des héritiers d'un certain nombre de conventions, de traditions, de certitudes qui nous sont transmises. Et la question est d'interroger ici, enfin, ce qui est important ici, c'est d'interroger le rapport possible qu'un sujet pourrait entretenir avec tous ces héritages et de se demander à quel titre ces héritages pourraient être le moment d'appropriation et en même temps de constitution de soi. Parce que derrière, à mon avis, derrière la question « faut-il toujours chercher la certitude ?», se trame le véritable problème du sujet, du statut et de la position du sujet, par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport aux conventions, par rapport à soi. Le sujet est-il en mesure d'accéder à lui-même? Comment? Et donc, il me semble que dans ce dernier moment de dissertation, poser la question du rapport au savoir transmis, aux habitudes, aux conventions, peut nous permettre de poser la question de la constitution de soi, de son identité. Et il y a un auteur qui traite très bien cette question, c'est Montaigne. Montaigne qui fait l'éloge des voyages, des rencontres. Il se demande comment sommes-nous ce que nous sommes, comment croyons-nous en ce que nous croyons, dit Montaigne. Et il dit que finalement, nos certitudes, puisqu'elles sont le plus souvent des croyances, quelle que soit la façon dont nous les tenons pour des certitudes, sont forgées toujours à l'occasion de rencontres, des rencontres avec le monde, des rencontres avec les autres, avec les traditions, avec les coutumes, et dont on se fait les héritiers, mais à condition toujours de s'y mettre à distance, de se les réapproprier et de pouvoir les réinterpréter. Et c'est cette mise à distance qu'il faut mettre en évidence ici, parce que si on peut s'accommoder de nos certitudes, c'est toujours à condition de les critiquer, de pouvoir les tenir hors de soi et en même temps les tenir pour soi.
Penser contre soi-même, c'est ce que Montaigne enseigne à chaque page de ses essais. Et finalement, à vous écouter, Ligia Saint-Jean, on a l'impression que vous faites une sorte de mise en abîme de l'année d'apprentissage de la philosophie en terminale, hein, et oui. J'imagine les élèves qui ne se sentent pas du tout prêts pour l'épreuve en se disant, mais je ne sais rien, je n'ai aucune certitude quant à mes connaissances. Ben, justement, en fait, ce que vous nous dites, c'est que, ben oui, vous n'en aurez jamais plus. C'est qu'à un moment, il faut pas que ça empêche d'agir et de penser non pas forcément par soi-même, mais contre soi-même, et donc d'envisager une thèse et puis une autre.
Sachant que envisager une thèse et une autre, alors je passe mon année à leur expliquer aux élèves que ça ne suffit jamais, il faut toujours faire la synthèse, c'est-à-dire prendre de la distance par rapport à ce qui pourrait s'opposer et donner du sens à ces oppositions. Et c'est là que la discussion se fait. C'est-à-dire comprendre qu'il y a des angles de compréhension différents et donc c'est ce que doit faire l'élève dans sa copie. Montrer tous ces angles possibles et montrer que si on oppose différentes thèses, c'est parce que le sens que l'on va donner à, par exemple, la notion de certitude ne va pas être le même. Voilà.
Et quelle serait votre conclusion?
Alors, en conclusion, ce qui serait intéressant de dire, c'est que si avoir des certitudes est utile et bénéfique, parce qu'elles peuvent donner ancrage à notre subjectivité, que cet ancrage soit scientifique, ontologique, moral ou social, il importe de se donner les moyens de toujours les mettre en perspective. C'est cet effort que l'on retrouve dans le doute, dans la mise, dans la distance critique. Et il importe donc de les discuter, de les confronter, en ne s'y tenant jamais pleinement, ou toujours en considérant ce qu'elles sont, à savoir des points de repère limités, partiels, et qui n'ont de valeur que dans un contexte donné, mais qui peuvent prendre véritablement du sens par rapport au sujet qui les tient et dans lequel ils s'y engagent. Si les certitudes peuvent être l'expression de la pleine confiance d'un sujet de lui-même, elles prennent... Dans ce cas-là, le sens de conviction intimement tenue, et dans ce cas-là, elles sont très importantes. Mais seulement nos certitudes peuvent aussi n'avoir été forgées que par habitude, convention. C'est pourquoi il importe de toujours tenir nos certitudes pour ce qu'elles sont, à savoir des certitudes et non des vérités indiscutables, inébranlables, face auxquelles il faut toujours garder une distance critique et vigilante, de sorte de ne jamais confondre vérité, certitude, et de ne jamais tomber dans le dogmatisme ni dans le scepticisme le plus radical.
Ça, c'est votre conclusion ?
Oui.
Vous en êtes certaine ?
Oui.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends. No schooling, ain't got no work, ain't got no job, ain't got no mind. Ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket. Thank you.
C'est Nina Simone qui est en train de refaire la dissertation à sa façon. « I got no, but I've got life ». C'est une chanson choisie par vos élèves, Ligia Saint-Jean, que je félicite et que je remercie. Et surtout, je vous remercie hein, d'avoir participé à cette émission. C'est pas facile hein, d'être dans cette position-là, de l'autre côté du micro.
Merci à vous.
Alors, un grand bravo à vous et merci à vos élèves qui ont été bien sages. Vous pouvez féliciter votre professeur.
J'ai proposé cette chanson parce que je trouve qu'au début de sa chanson, Nina Simone dit bah, j'ai pas d'amis, j'ai pas de maison, j'ai pas de famille. Et ensuite, elle dit bah, d'accord, j'ai pas tout ça. Mais après, elle devient sûre qu'elle a quand même toute son identité, sa vie. Et après, elle en profite, elle dit que personne ne lui prendra sa vie.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoir, qui vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pour cette semaine consacrée au bac, des philosophes évoquent pour nous quelle a été leur découverte de la philosophie en terminale. Et aujourd'hui, place à la philosophe Claire Marin, professeure en classe préparatoire au lycée Alfred Kastler de Cergy-Pontoise, auteur de La maladie, catastrophe intime, paru au PUF, et Violence de la maladie, violence de la vie, qui reparaît être en août charme au Colin.
Moi, ce qui m'a le plus passionné en terminale, même si ça peut paraître un peu étrange, c'était l'exercice de la dissertation. Parce qu'en fait, cette espèce de manière de décortiquer une question, étudier en fait tout ce qu'il y avait derrière, comme présupposé, comme contexte, à qui elle s'adressait, tout ça, réussir à la reformuler, tous ces éléments-là, c'était ça qui m'avait peut-être le plus intéressé, la démarche un peu d'enquête en fait, d'approfondir la question. Ça m'avait plus intéressé que de me plonger dans une philosophie particulière. C'était moins les auteurs dans un premier temps que poser une question, la reposer, et puis se rendre compte qu'en fait, en posant des questions, on est déjà en train d'esquisser des lignes de réponse. Ce qu'on découvre par là, c'est aussi qu'on a peut-être une approche soit trop naïve, soit un peu simplifiée par l'habitude ou la routine d'un certain nombre de situations. Et du coup, il y a toujours des questions de philosophes qui peuvent sembler étranges à la première vue. Est-ce que j'existe bien? Est-ce que ce sont bien mes mains? Etc. Ça fait toujours sourire les élèves au premier abord. Mais après, ça pousse effectivement à s'interroger sur d'autres choses qui sont apparemment évidentes et puis qui en fait ne sont pas tant que ça. Évidemment, la découverte de la philosophie comme exercice, comme pratique, ça m'a passionnée en terminale. Et puis après, la lecture de certains auteurs en classe prépa, ça m'a décidée effectivement à m'y consacrer de manière un peu plus assidue.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la préparation de l'épreuve de philosophie du bac. Demain, je recevrai Sébastien Labrusse qui enseigne la philosophie au lycée Marie Curie de Versailles et qui viendra avec ses élèves commenter pour vous un texte d'Emmanuel Lévinas. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et vous pourrez surtout la télécharger, la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. une semaine à prolonger en lisant le hors-série spécial Bac Philo proposé ce mois-ci par Philosophie Magazine. Vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.